Chapitre 2. Que l'on nous permette de nous arrêter un instant et de consigner ici quelques détails plus intimes encore qu'aucun de ceux que nous avons rapportés jusqu'à présent. Il existe à la Bibliothèque nationale un manuscrit en 6 volumes in folio inscrit par le père Lelong sous le numéro 21448 et sous le titre de « Ludovico Trophy » ou « Journal de toutes les actions et de la santé de Louis, dauphin de France » qui fut ensuite le roi Louis XIII, depuis le moment de sa naissance jusqu'au 30 janvier 1625, par Jehan Hérouard, premier médecin du prince. L'homme qui consacra 23 ou 24 ans de sa vie à cet ingrat travail ne désirait pas en tirer d'autre gloire ni d'autre profit que d'avoir l'honneur de ne pas quitter un instant le roi. Et en effet, comme on va le voir, il ne le quittait pas un instant. Il mourut au camp de La Rochelle, ainsi que le constate cette annotation écrite après les dernières lignes de la dernière page du 6e in-folio. Ici finit le journal de la vie active du roi Louis XIIIe, exactement décrite et contenant 6 volumes, dont le présent est le dernier, depuis sa naissance jusqu'à ce jour-ci, par Messire Jehan Hérouard, seigneur de Vaugrigneuse, qui fut saisi de maladie à Étré, au camp devant La Rochelle, samedi 29e janvier 1628, et y décéda le 8e février en suivant, au service du roi son maître, à la santé duquel il s'était entièrement dédié, âgé de 68 ans, moins curieux de richesse que de gloire, d'une incomparable affection et fidélité. Son corps repose dans l'église de Vaugrigneuse. Je savais que ce manuscrit existait, qu'il rendait compte jour par jour, heure par heure, minute par minute, des actions du roi. Il me vint alors dans l'idée de voir quel dérangement l'assassinat du maréchal d'Ancre avait produit, soit dans la vie, soit dans la santé du roi. J'allai à la bibliothèque. Je demandai le manuscrit des rois. On me le remit avec une politesse parfaite. Je cherchai d'abord le dimanche 23 avril, jour où le dessein de l'assassinat avait avorté, et où le roi, voyant l'occasion perdue, ne fit aucun semblant de déplaisir, ni ne témoigna aucune inquiétude, et demanda sa viande. Voyons un peu l'état moral et physique du roi pendant cette journée. Nous vous prévenons, belle lectrice, que les détails sont des plus intimes. C'est à vous de ne pas les lire. Le 23 avril 1617. Éveillé à 7 heures après minuit. Douleur. Pouls plein égal. Chaleur douce, pensée levée, bon visage gai, pissé jaune, peigné vêtu, priez Dieu. À 8 heures, déjeuner, point bu. Il pleuvait, va en galerie, joue au billard, va en la chapelle de Bourbon chez la reine sa mère. À 11 heures, dîner, bout d'asperge en salade, 6, un peu de pigeonneau bouilli, bout d'asperge sur un chapon rôti, 12. Veau bouilli, la moelle de noces, taillarin dessus, 12, mousserons au beurre avec une rôtie de pain dedans, 2 couvercles de pâté d'assiette, suc de 2 oranges prises à la cuillère, gelé, guine sèche, 4 tranches de pommes cuites au sucre et à l'eau de rose, grains de raisin muscat sec, 12, cotignac, 5, pain fort peu, bu du vin clairé fort trempé, dragé de fenouil, la petite cuillerée. Va chez la reine, sa mère, par la galerie aux Tuileries, à vêpres aux feuillants, revient en carrosse. À 4 heures, de la galerie chez la reine, sa mère. À 7 heures, fais ses affaires. On devine ce que le docteur Hérouard appelle faire ses affaires. Jaune, molle, beaucoup. À 7 heures un quart, soupe, bout d'asperges en salade, 12. Pain et panade. Un peu de pigeon bouilli. Bout d'asperges sur un chapon bouilli. Mousserons au beurre avec une rôtie de pain. Beaucoup dîner. Requête d'oison, le suc de 2 oranges douces, partie d'un pilon d'oiseau, bu du vin clairé fort trempé, guine sèche, 14, figues 5, grains de verjus confits, pain fort peu. À 8h3, dévêtu, pissé, affaire jaune. Mise au lit, pouls plein, égal, pensée. Chaleur douce. Prie Dieu, s'endort à 10 heures jusqu'à 9h30 après minuit. Voilà comment Louis XIII passe cette journée du 23. On voit que la préoccupation ne lui ôte ni l'appétit ni le sommeil. Il mange le dîner de 4 personnes et dort 11h30. Voyons la journée du 24. Le lundi 24, Louis XIII se leva, comme on l'a vu, à 9h30, fit dire qu'il voulait aller à la chasse et recommanda que les ordinaires et les chevaux légers se tinssent prêts à l'accompagner. Le rendez-vous du départ était au bout de la galerie des Tuileries, où un carrosse à 6 chevaux attendait. Mais le départ fut différé d'heure en heure. D'abord, le roi voulut déjeuner avant de partir. Puis il entreprit une partie de billard. Puis, se rappelant que la jeune reine n'était pas prévenue, il passa chez elle et la pria, si elle entendait du bruit, de ne s'étonner de rien. En rentrant, il trouva Bautru, qui ignorait tout, causa longtemps avec lui, s'amusant, pour ne pas avoir à regarder son interlocuteur, à racler un parchemin pour le rendre plus mince. Tout cela avec son air ordinaire et sa voix habituelle. Pendant ce temps, Vitry, qui avait placé des hommes aux aguets pour être prévenu de tous les mouvements du maréchal, était dans la salle des Suisses, assis sur un coffre, et ne faisait semblant de rien. Duhallier, son frère, était dans un coin de la basse-cour, avec 4 ou 5 hommes sûrs. Perret était dans un petit cabinet avec Autant. Et avant, Autant aussi, la chaînée se tenait à la première porte. Tous trois étaient du complot. Leurs hommes savaient qu'on allait frapper quelqu'un. Seulement, ils ignoraient qui on allait frapper. Cela ne faisait rien à la chose. Ils étaient des gens qui crient « tue » quand on dit « assomme ». De temps en temps, Vitry relevait la tête et écoutait. Duhallier faisait quelques pas sur le quai. Perret entr'ouvrait la porte de son cabinet. La chaînée montait sur une borne pour voir de plus loin. Alors il sortit de la salle des Suisses, son manteau sur l'épaule et la canne à la main, ralliant en passant Perret, la chaînée et Duhallier. Puis, tous ensemble, au nombre de 15 à peu près, marchèrent au-devant du maréchal. Mais le maréchal était tellement entouré que Vitry le dépassa sans le voir. Cependant, s'étant aperçu qu'il devait l'avoir croisé, il s'arrêta et demanda à un gentilhomme nommé Le Colombier « Où est donc le maréchal ?» Le colombier indiqua de la main un homme arrêté au milieu d'un groupe et répondit « Le voici qui lit une lettre. » On était à l'entrée du pont dormant. Le maréchal venait de se remettre en route et marchait fort lentement, lisant toujours. Il était côtoyé, à droite, par le sieur de Beausami et par le sieur de Covigny, lequel lui avait remis la lettre qu'il était en train de lire. Vitry, qui était à gauche du maréchal, se trouvait donc de son côté désarmé. Il fit 4 pas, le rejoignit, étendit la main, lui toucha l'épaule et dit « Monsieur le maréchal, le roi m'a commandé de me saisir de votre personne. » Concini s'arrêta tout étonné et regardant Vitry d'un air effaré « Dis mais, » répondit-il en italien. « Oui, de vous, » fit Vitry. Et le prenant au collet, il fit signe à ceux qui l'accompagnaient de charger. Il n'attendait que le moment. À l'instant même, et au signe de Vitry, Duhallier, Perret, Morcin et Dubuisson se précipitèrent, chacun lâchant son coup de pistolet, sans qu'on puisse savoir qui les premiers, qui les derniers. Sur 5 coups, 2 portèrent dans la barrière. Les 3 autres atteignirent le maréchal, l'un à la tête, entre les 2 yeux, l'autre dans le gosier, le 3e à la joue, près de l'oreille droite. Puis ce fut le tour des autres. Sarocq, Tarant, Lachesnais fondirent sur lui, l'épée haute. Sarocq, qui, plus d'un mois auparavant, s'était offert au roi pour tuer le maréchal, lui donna un coup à travers le côté et au-dessus du téton. Tarant lui porta 2 coups à la gorge. Guichaumont et Boyer frappèrent aussi, mais frappèrent un cadavre. Tout cela se passa si rapidement que, tout mort qu'il était probablement de la pistolade, le maréchal ne tomba qu'au 3e coup d'épée. Encore ne tomba-t-il que sur les genoux et appuyé contre les barrières. Alors, en criant « Vive le roi !», Vitry le frappa d'un coup de pied qui acheva de l'étendre à terre. Aussitôt, toutes les portes du Louvre furent fermées et les gardes se mirent en bataille. Au milieu de la bagarre, 2 gentilshommes de la suite du maréchal avaient mis l'épée à la main. Tous deux essayèrent de frapper Vitry, mais ne percèrent que son manteau. Et Vitry leur ayant crié « Messieurs, au nom du roi !» ils se reculèrent aussitôt. Sarocq s'empara de l'épée du maréchal et la porta au roi qui la lui donna. Dubuisson prit au doigt du mort un diamant qui valait, disait-on, 6 000 écus. Boyer eut son écharpe, un autre son manteau de velours noir garni de passementeries de Milan. Deux pages pleuraient auprès du corps, mais les autres pages leur ôtèrent leurs chapeaux et leurs manteaux. Le colombier, celui auquel Vitry avait demandé où était le maréchal, s'était d'abord retiré en arrière au bruit du pistolet. Mais quand la presse fut dissipée, il eut la curiosité de s'approcher du cadavre pour voir dans quel état il était. Il lui trouva le visage tout noirci de poudre et tout souillé de boue. Sa fraise, enflammée, brûlait comme une mèche d'arquebuse. Il en était là de son examen quand on enleva le corps, qui fut emporté dans une petite chambrette des soldats des gardes. Le maréchal était habillé d'un pourpoint de toile d'or noir, avec un jupon et un haut-de-chausse de velours gris-brun à grandes bandes de Milan. Il fut jeté à terre devant un mauvais petit portrait du roi. C'est là qu'on l'allait voir. On fit la visite du corps et l'on trouva qu'il n'avait point de côte de maille, comme on disait toujours qu'il en portait une. Tous les coups avaient donc pénétré bien à fond. Il avait sur sa chemise une petite chaîne d'or pesant 15 onces à laquelle était attaché un Agnus Dei cacheté, dans lequel on ne trouva qu'un morceau de toile blanche plié en quatre. On jugea que c'était un charme. En tout cas, si c'était un charme, le charme l'avait bien mal défendu. Il y avait 3 ou 4 poches à son haut-de-chausse. On y trouva des rescriptions de l'épargne, promesses de receveur ou obligations, pour la somme d'1 985 000 livres, le tout empaqueté en 2 enveloppes cachetées, qu'il portait, au reste, habituellement sur lui. On alla acheter un drap 50 sous et on l'attacha par les deux bouts avec un morceau de ficelle afin de n'avoir pas la peine de le coudre. Et quand il fut fort tard, c'est-à-dire vers minuit, on l'alla, par le commandement du roi, enterré à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, précisément sous les orgues, où les pierres furent si promptement et si habilement rassemblées qu'il ne paraissait point qu'on y eût touché. Un prêtre voulut chander un De Profundis pour le pauvre mort. Mais les assistants l'en empêchèrent en disant que le scélérat ne méritait aucunement que l'on priât pour lui. Cependant, l'expédition faite, Vitry était rentré dans la cour du Louvre, où il se promena quelque temps, allant, venant, l'œil au guet et tenant toutes choses en bride. À peine y était-il qu'une femme de la reine nommée La Catherine ouvrit un des châssis de la chambre de Marie de Médicis et demanda toute tremblante. « Pour l'amour du ciel, monsieur de Vitry, qu'y a-t-il donc ?»« Rien, » répond Vitry, « c'est le maréchal d'Ancre qui vient d'être tué. »«
Jésus-Dieu !» s'écria la femme de chambre. « Et par qui donc ?»«
Par moi, » dit Vitry.
« Et sur quel ordre ?»«
Sur celui du roi. » La Catherine referma vivement le châssis et courut, tout éplorée, porter la nouvelle à la reine. Marie de Médicis devint d'abord très pâle, puis s'étant fait répéter, comme si elle n'entendait pas.
« J'ai régné 7 ans, dit-elle, je n'attends plus qu'une couronne au ciel. »
11 heures sonnaient. On se rappelle qu'en ce moment, l'évêque de Luçon, prévenu la veille au soir du danger de mort que courait son bienfaiteur, se hasardait à quitter la maison du doyen de Luçon pour venir au Louvre. Le roi le rencontra dans la galerie. C'était la première personne étrangère que Louis XIII rencontra depuis que la nouvelle de la mort du maréchal lui avait été donnée.
« Ah ! » s'écria le prince, s'adressant à l'évêque. « Me voici enfin délivré de votre tyrannie, monsieur de Luçon !»
On voit que le roi était injuste à son égard. Voici, du reste, comment la nouvelle de la catastrophe était arrivée à Louis XIII. Le roi, ainsi que nous l'avons dit, était dans son cabinet des armes. Et comme il avait déjà tressailli au coup de pistolet dont le bruit était parvenu jusqu'à lui, le colonel d'Ornano vint frapper à sa porte en lui disant
« C'est fait, sire !»«
Il est donc mort ?» demanda le roi.
« Oui, sire, et bien mort !»
Le roi respira, puis se tournant vers Dussault.
« Ça, dit-il, que l'on me donne ma grosse Vitry !»
Sa grosse Vitry était une carabine dont Vitry lui avait fait cadeau. Alors, prenant son épée à la main, il sortit de son cabinet et passa dans la grande salle. Le colombier y arrivait. Il venait, comme on sait, de regarder de près le maréchal et pouvait donner des détails au roi. Louis XIII les dévora. Puis, lorsqu'il n'eut plus aucun doute que tout était fini, on ferma les portes de la salle et le roi se présenta aux fenêtres donnant sur la cour et, afin qu'il fût mieux vu, le colonel d'Ornano le prit entre ses bras et le souleva pour le montrer à ceux qui étaient en bas avec Vitry. Tous, en apercevant Louis XIII, agitèrent leurs épées et leurs pistolets en criant « Vive le roi !»« grand merci à vous. À cette heure, je suis roi !» Puis, allant aux autres fenêtres donnant sur la cour des cuisines, il cria « Aux armes, compagnons, aux armes !» À ces cris, tous les soldats des gardes se rangèrent en bon ordre par toutes les avenues et rues, et chacun, content de voir le roi sain et gaillard, le montrait à son compagnon en criant « Vive le roi !» car on venait d'entendre des coups de pistolet, et comme on ignorait contre qui ils avaient été tirés, on appréhendait que ce ne fût contre le roi. En même temps, Louis XIII disait « Loué soit Dieu, me voilà donc roi. Que l'on m'aille quérir les vieux serviteurs du roi mon père et les anciens conseillers de mon conseil d'État. C'est par l'avis de ceux-là que je veux régner désormais. » Un des serviteurs du roi, nommé Pocard, alla quérir M. de Villeroy et M. le président Jeannin. D'autres coururent vers Messieurs de Gèvres, de Loménie, de Pontchartrain, de Châteauneuf, de Pontcarré et les autres anciens du conseil. Puis, en les attendant, le roi ordonna qu'on envoyât au Parlement, à la Bastille et par la ville, de peur qu'il n'y eût du désordre. Ce furent les lieutenants enseignes et les exempts des gardes qui montèrent à cheval et qui, assistés de quelques archers, s'en allèrent par la ville en criant « Vive le roi est roi !» Quant à la maréchale, voici comment elle a pris son malheur. Elle se promenait dans sa chambre et, la porte en ayant été ouverte, elle vit paraître des gardes du roi. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient et les pria de se retirer. En même temps, elle entendit le bruit du coup de pistolet dans la cour du Louvre. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle. « Madame, lui répondit-on, c'est monsieur le baron de Vitry qui a une querelle. »« Le baron de Vitry ? Une querelle ? Des coups de pistolet ? Vous verrez que c'est contre mon mari. » Là-dessus, quelqu'un entra qui lui dit en secouant la tête. « Mauvaise nouvelle, madame, monsieur le maréchal est mort. »
« Il a été tué !» s'écria Galigaï.
« Il est vrai, madame, et c'est Vitry qui l'a tué. »«
Alors, dit-elle, le coup vient du roi !»
De ce moment, elle comprit que tout était perdu, fourra ses pierreries dans la paillasse de son lit, se fit déshabiller et se coucha dessus. Nous avons déjà dit comment la Catherine avait su la nouvelle et comment, en l'apprenant de sa bouche, la reine s'était écriée «
J'ai régné 7 ans, je n'attends plus qu'une couronne au ciel. »
La reine était dans son cabinet du luth. La douairière de Guise, la princesse de Conti et madame de Guercheville accoururent. Ces dames la trouvèrent se promenant échevelée et frappant ses mains l'une contre l'autre.
« Vous savez, mesdames, vous savez !» dit-elle en les apercevant.
Ces dames savaient en effet, mais elles savaient mal. On renvoya la Catherine aux informations. Pendant ce temps, la place entra. « Madame, dit-il, vous connaissez la nouvelle ?»«
Je crois bien que je la connais !» répondit Marie de Médicis.
« On ne sait comment l'annoncer à Madame la Maréchale et l'on fait demander à Votre Majesté si elle voudrait prendre la peine de la lui dire.
« Ah, j'ai bien d'autres choses à faire et à penser !» s'écria la reine. « Si l'on ne sait comment lui dire la nouvelle, qu'on la lui chante !»
La place sortit. 10 minutes après, il rentra. On a vu comment Galigaï avait appris la catastrophe. La place venait de la part de la maréchale. Elle faisait demander à la reine s'il lui était agréable qu'elle la vînt voir afin qu'elles se consolassent ensemble. En tout cas, elle suppliait la reine de la protéger.
« Bon, dit la reine, j'ai assez à faire de me protéger moi-même, qu'on ne me parle plus de ces gens-là. Il y a longtemps que je leur crie qu'ils devraient être en Italie. Je l'ai dit à cet idiot de maréchal. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Que le roi lui faisait meilleure chère que jamais. Sur quoi je lui ai dit « Ne vous y fiez pas, le roi ne dit pas toujours ce qu'il pense. »
Mais cette demande de la maréchale fit venir une idée à Marie de Médicis. Elle appela Bressieux, son premier écuyer.
« Allez, dit-elle, demandez au roi de ma part s'il y a moyen de lui parler. »
Un instant après, Bressure entra.
« Madame, dit-il, le roi fait répondre qu'il est trop empêché à cette heure et que ce sera pour une autre fois. Seulement, il prie votre majesté d'être assurée qu'il l'honorera toujours comme sa mère. Mais il dit que, puisque Dieu l'a fait naître roi, il est résolu dorénavant de régner. »
En ce moment, M. de Presles, capitaine des gardes de la reine, frappa à la porte du cabinet du luth.
« Qu'y a-t-il encore ? » demanda Marie de Médicis.
« Madame, dit de Presles, de la part du roi, M. de Vitry vient de désarmer mes hommes. Il dit que désormais, votre majesté sera gardée par les gardes du roi. Que faut-il faire ? »
« Obéissez aux ordres du roi, monsieur de Presles. Monsieur de Bressieux, vous entendez ce que je dis ? » ajouta Marie. « Veillez à ce que les ordres du roi soient exécutés sans empêchement. »
Les gardes de la reine furent donc désarmés. Vitry logea à leur place une douzaine de gardes du roi et il en mit autant à la petite montée. De Vitry rapporta au roi ce qui s'était passé. Louis XIII fit de la tête un signe de contentement. Puis il ajouta « Demain, on fera défense à Monsieur de Chartres, à Bressieux et à La Motte d'aller chez la reine. On fera murer les portes du quartier qui communique de son appartement dans le mien. Ma mère sera servie comme à l'ordinaire par ses dames et ses officiers. Mais il y aura toujours deux gardes du roi assistant à tout jusqu'à ce que je sois établi comme il faut. En attendant, que l'on demande les clés de toutes les chambres qui sont au-dessus de la mienne. » Et que les Suisses rompent à coups de hache le pont-levis qui est entre la chambre de la reine-mère et son jardin. C'était le pont qu'on appelait pont d'amour. Vers le même temps où le roi donnait ses ordres, c'est-à-dire vers 11h30, Bassompierre, qui avait appris la nouvelle de l'assassinat du maréchal d'Ancre et qui venait féliciter le roi, rencontra sur le pont Madame de Rambouillet, tenant à la main un livre d'heures.
« Eh bien, marquise, demanda Bassompierre, où allez-vous donc comme cela ? » ?»«
Mais à la messe, je crois, dit la marquise. »
« À la messe ? Et que pouvez-vous donc avoir à demander à Dieu quand il vient d'avoir la bonté de nous délivrer du maréchal d'Ancre ?»
Les gardes du roi placés dans les antichambres de la reine-mère, Vitry envoya des archers pour arrêter la maréchale. On la trouva sur son lit. Nous savons à quelle occasion elle s'était couchée et comment elle croyait protéger ainsi le trésor caché dans sa paillasse. Les archers fouillèrent partout, mais sans rien trouver d'abord. Puis, comme on était certain que les diamants et les pierreries devaient être là, on fit lever la maréchale pour fouiller dans son lit. Au bout de quelques minutes d'investigation, on avait retrouvé le trésor. Le lecteur comprend bien que tout cela ne se faisait point sans que les archers fourrassent un tant soit peu dans leurs poches les objets à leur convenance qu'ils rencontraient sous la main. Il en résulta que, lorsque la maréchale voulut mettre ses bas, elle n'en trouva plus, et que, quand elle fouilla dans ses poches pour y prendre de l'argent afin d'en acheter, elle s'aperçut que ses poches étaient vides. Elle envoya alors demander à son fils, qui était retenu prisonnier à un autre endroit, s'il n'avait point un écu sur lui pour qu'elle pût envoyer acheter des bas. L'enfant réunit tout ce qu'il avait dans ses pochettes et envoya un quart d'écu à sa mère. Puis, comme le pauvre enfant pleurait à chaudes larmes à la nouvelle de la mort de son père et de l'arrestation de sa mère, et que ses gardiens lui disaient de prendre patience,
« Hélas, dit-il, il le faut bien. Seulement, comme plus d'une fois on me l'avait prédit, je porte la peine des fautes de mon père. »
Le comte de Fiesque, qui était de la maison de cet aventureux comte de Fiesque, lequel était tombé à la mer quelque 60 ans auparavant, en essayant de s'emparer du pouvoir à Gênes, avait été fort tourmenté par la maréchale d'Ancre, quoique écuyer de la reine régnante. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas grande recommandation, puisque la vraie reine régnante était non pas Marie de Médicis, mais Éléonore d'Ory. Celle-ci l'avait donc d'abord fait reléguer dans une méchante chambre du Louvre, puis chassée de la présence du roi et de la reine, parce que Fiesque avait parlé au roi au désavantage de la maréchale. Mais lorsqu'il apprit la situation du jeune Concini, qui était renfermé dans une espèce de cabinet, et si maltraité des archers que l'enfant refusait toute nourriture, voulant, disait-il, mourir de faim, Le comte de Fiesque se souvint que le pauvre petit était le filleul du roi Henri IV et alla demander à Louis XIII la permission de le prendre en garde. Puis, comme les archers avaient enlevé à leur jeune prisonnier son chapeau et son manteau, le comte lui donna le manteau et le chapeau de son laquais et l'emmena au Louvre dans sa chambre. La petite reine, ayant su qu'il était là et ayant entendu dire que l'enfant dansait bien, l'envoya chercher, et tandis que les blessures de son père saignaient encore et que les archers conduisaient sa mère en prison, elle exigea qu'il dansât devant elle tous les pas qu'il connaissait. Ce que le pauvre petit fit en pleurant, mais ce qu'il fit cependant, dans l'espérance de tirer de ce côté quelque protection pour sa mère et pour lui. Avant qu'on la conduisît en prison, la maréchale fut interrogée par messieurs Aubry et Le Bailleul, qui l'arrêtèrent dans l'antichambre et qui l'interrogèrent sur ce qu'elle pouvait avoir de bijoux et d'argent. Elle répondit qu'elle avait encore ses perles, un tour de cou de 40 perles, dont chacune valait 2000 livres, et une chaîne de 5 tours de perles, dont chaque perle valait 50 livres, et qu'au total, il y en avait pour 120 000 écus à peu près. Après quoi, elle enveloppa le tout dans du papier, le fit cacheter en sa présence, priant ces messieurs de les rendre, comme ils firent, aux propres mains du roi, leur disant qu'elle n'avait aucune appréhension et que, s'ils voulaient contribuer à faire reconnaître son innocence, elle leur donnerait, une fois revenue en faveur, à chacun un présent de 200 000 écus. L'un d'eux lui dit « Vous nous priez maintenant, madame, et il y a 15 jours, si nous vous eussions regardé en face, vous vous fussiez offensé, vous eussiez dit que l'on vous en sorcelait, et vous nous eussiez fait punir. » « Oh ! » dit-elle, « ne me parlez point de ce temps-là, messieurs, j'étais folle !» De chez la maréchale, messieurs Aubry et Le Bailleul se rendirent chez le maréchal, où ils trouvèrent encore 2 050 000 livres de rescription. Sur ces entrefaites, et comme ces messieurs faisaient une expédition inutile à Marmoutier, chez le frère de la maréchale, où ils ne trouvèrent rien qui vaille, un nommé M. Ollier vint révéler qu'il avait des coffres en garde. Il remit ces coffres au roi et l'on y trouva 2 chandeliers d'or massif, 2 douzaines d'assiettes d'or et une robe toute couverte de diamants et autres choses précieuses. Restaient les 3 ministres favoris de la reine-mère, Barbin, qui était chargé des finances, Mango, qui était chancelier, et M. de Luçon, le futur cardinal de Richelieu, qui était confident favori de la reine-mère sous le titre de secrétaire d'État. Nous avons vu ce qui était arrivé à M. de Luçon quand il s'était, une heure après l'assassinat, présenté au roi. « Monsieur de Luçon, lui avait dit le roi, me voilà donc délivré de votre tyrannie !» et lui avait tourné le dos. C'était clair et un autre se le fut tenu pour dit. Il n'en fut pas ainsi de M. de Luçon. Nous le verrons revenir. Mango fut, après M. de Luçon, le premier qui se hasarda d'aller au Louvre. Dans un pareil moment, on y mettait, comme on le comprend bien, le pied assez timidement. Mango prenait donc le chemin du quartier de la Reine, quand Vitry l'arrêta dans la cour. « Où allez-vous, Monsieur Mango ? » lui demanda-t-il. « Chez Sa Majesté la Reine-Mère. »« Pardon, mais il faudrait savoir avant tout si Sa Majesté le Roi l'aura pour agréable. » Mango s'arrêta. Vitry s'en alla faire sa charge de maréchal du palais, tantôt à droite, tantôt à gauche, ne s'occupant plus du chancelier. Mango continua de se promener, mâchant un cure-dent qu'il tenait à la bouche. Enfin, ennuyé de ne pas avoir de réponse, il fit demander au roi s'il lui était agréable qu'il allât saluer. Le roi lui fit répondre que non, mais que ce qui lui serait agréable, ce serait que, le plus vite possible, il rendît les sceaux. Une heure plus tard, le roi les avait. Aux premières nouvelles qu'il avait reçues de la catastrophe, Barbin avait, de son côté, voulu aller voir au Louvre ce qui s'y passait. Mais, étant encore sur le seuil de la porte, il lui fut dit par M. Hennequin qu'il ferait mieux d'attendre et de ne point se hasarder sans qu'il fût sûr de quelle façon il serait reçu. Barbin rentra donc dans son logis. Mais peu après, il en ressortit et s'en alla se cacher dans les écuries de la reine. Messieurs Mango et Deluçon, sachant qu'il était là, le rejoignirent. Ils envoyèrent alors à la reine-mère M. de Bragelonne, lequel fit si bien qu'il parvint jusqu'à Marie de Médicis et lui apporta la pièce du triumvirat. « Dites, répondit la reine-mère,
que pour Barbin je ferai ce que je pourrai, mais que pour les autres je ne réponde rien, qu'ils pourvoient donc comme ils entendront à leur sûreté. »
Mango était allé chercher les sceaux et avait l'espoir de les rendre au roi lui-même. En les lui rendant, il lui eut parlé et eut tenté un dernier effort. Mais au moment où il commençait de monter le grand escalier,
« Hola, monsieur Mango !» lui cria Vitry qui venait derrière. « Où allez-vous avec votre robe de satin ?»«
Mais, monsieur, je vais chez sa majesté. » »«
Le roi n'a plus affaire de vous, monsieur. » »«
Il m'a redemandé les sceaux. » »«
C'est bien, attendez-la. »
Mango attendit une heure dans l'antichambre. Mais au bout d'une heure, vint Deluine qui lui dit
« De la part du roi, monsieur, donnez-moi les sceaux. »
Mango les rendit et ils furent donnés par le roi à Armagnac pour les garder. Et se frottant les mains, le roi dit
« Ah, j'espère que, maintenant que nous avons les sceaux, nous aurons les finances. »
Après quoi, Mango fut conduit par les archers dans la chambre de Vitry, d'où il ne bougea de tout le jour jusqu'à 5 heures du soir, moment où il rentra chez lui. Quant à M. de Luçon, il ne se tint point pour battu de la rebuffade du roi. Il fit dire à Sa Majesté qu'elle devait se rappeler que, depuis 15 jours, voyant le désordre qui s'était mis dans les affaires, il avait demandé son congé, qu'en conséquence, il désirait que le roi décidât quelque chose à son endroit. Le roi lui fit répondre qu'il pouvait rester en son conseil si bon lui semblait, ou comme évêque, ou comme conseiller d'État, mais que, pour la charge de secrétaire, il en avait disposé et l'avait rendu à M. de Villeroy. À cette fin, Sa Majesté le priait d'aller quérir tous ses papiers. Ce que fit M. de Luçon, bien entendu. Pendant qu'on donnait des gardes à la reine, pendant qu'on fouillait la paillasse de la maréchale, pendant que celle qui, la veille, était plus riche que le roi régnant, plus puissante que la reine mère, faisait demander à son pauvre enfant un écu pour acheter les bas qui lui manquaient, le roi recevait les félicitations de son frère, M. le duc d'Orléans, de M. le comte de Soissons, du cardinal de Guise, du chevalier de Vendôme et de M. de Nemours. La foule était si grande que le roi, pour ne pas être étouffé, fut obligé de monter sur son billard où l'on fit monter avec lui M. et M. le comte. On appelait M. le comte M. le comte de Soissons, troisième fils de Louis Ier, prince de Condé, comme on appelait l'aîné M. le prince. Le second s'appelait M. le prince de Conti. Nous avons parlé de M. le prince à propos des amours de Henri IV avec sa femme et nous aurons probablement l'occasion d'en reparler encore. Nous parlerons plus tard de Mme la princesse de Conti, dont il y a plus à dire que de M. le prince. Et nous parlerons tout de suite de M. le comte, dont il n'y a rien à dire du tout, ou si peu de choses que cela n'en vaut guère la peine. D'ailleurs, M. le comte de Soissons, à cette époque, n'était qu'un enfant de l'âge du roi. Il était fils de Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui était mort en 1612, c'est-à-dire 5 ans auparavant. Plus tard, le jeune homme prit parti contre Richelieu, se ligua avec le grand Condé, son neveu, contre la régente dans toutes les affaires de la Fronde, gagna contre M. de Châtillon la bataille de la Marfée en Champagne et y fut tué par le dernier coup de pistolet que l'on y tira. C'est du haut de ce billard qui fut en réalité son premier trône que le roi reçut ses nouveaux ministres, le président Jeannin, les sieurs de Gèvres, Lomeny, Pontchartrain, Châteauneuf et Pontcarré. Le plus connu de tous ces barbons, comme les appelaient les jeunes gens de la cour, celui qui, en effet, a laissé une véritable trace dans l'histoire, est le président Jeannin, ligueur enragé, rallié depuis à Henri IV. Le président Jeannin était fils d'un tanneur d'Autun en Bourgogne. Le père, qui avait du bien, envoya le jeune homme étudier à Paris. Jeannin y fut fort débauché, ce qui fit que le vénérable tanneur lui coupa les vivres. Il revint en Champagne, épousa la fille d'un médecin de Semur, qui avait une assez bonne dot. Arrive l'assassinat du duc et du cardinal de Guise à Blois. Mayenne, gouverneur de la Bourgogne, met en armes son gouvernement. Jeannin se donne à lui et, par son intelligence, lui devient fort utile. Un jour que M. de Mayenne passait par Autun, Jeannin le pria de vouloir bien lui faire l'honneur de prendre son repas chez lui. Le prince accepte et se rend chez son hôte. Mais Jeannin, lui présentant son père avec son tablier de courroyeur, dit au prince « Monseigneur, voilà le maître de la maison.
C'est lui qui vous traite. »
M. de Mayenne reçut le courroyeur à bras ouverts et le fit mettre au haut bout de la table. Henri IV, après avoir vu Paris, alla à Laon. Jeannet y était et fut chargé de parlementer avec le roi. On échangea les propositions du haut en bas des remparts. Jeannin tint très ferme et refusa toutes les conditions offertes par le roi. Henri était furieux. « Ah !» dit Henri en montrant le poing à l'intraitable négociateur. « Je vous promets, maître Jeannin, que si j'entre dans l'an, je vous fais pendre. »«
Bon !» répondit Jeannin, « vous n'y entrerez pas que je ne sois mort, et une fois mort, je ne me soucie guère de ce que vous y ferez. »
Mayenne finit par faire sa paix. Il avait oublié de sauvegarder Jeannin. Mais près d'un homme comme Henri IV, Jeannin était sauvegardé par la conduite même qu'il avait tenue. Il s'était retiré au haut d'une montagne à laquelle on ne parvenait que par un sentier très rude. Sa raison était que les gens qu'il aimait véritablement le viendraient chercher partout où il serait, que, quant aux autres, il ne se souciait pas de les voir. Un jour, au grand étonnement de Jeannin, un étranger, un inconnu, le vient chercher sur son sommet. L'inconnu venait de la part de Henri IV et lui apportait une lettre conçue en ces termes. « Monsieur Jeannin, vous avez bien servi un petit prince. J'espère que vous servirez mieux encore un grand roi. » Henri. Post-scriptum, suivez l'homme que je vous envoie, il vous conduira à moi. Jeannin suivit le messager. Le roi Henri l'envoya en Espagne pour je ne sais quelle négociation. Jeannin s'en acquitta à merveille. Au retour, le roi lui donna une charge de président à Mortier à Dijon. Voilà pourquoi on l'a toujours appelé depuis le président Jeannin. Un jour, la reine mère, voulant l'avoir à elle, lui fit offrir une forte somme d'argent, quelque chose comme 3 ou 4 000 écus. Il refusa cette somme en disant que, pendant la minorité de son fils, la reine mère ne pouvait disposer de rien. En 1608, le roi l'avait envoyé en Flandre. Ce fut à lui que les Provinces unies durent le traité de 1609. Après la mort du roi, il avait été surintendant des finances. Mais depuis, on lui avait ôté la place pour la donner à Barbin. Il avait d'avance fait faire son tombeau dans la même église que celui de son père et côte à côte avec lui. Le titre de tanneur était soigneusement conservé sur la pierre tumulaire. Était-ce par humilité? Était-ce par orgueil?